on est des offreurs dans toute la méthode. On est des offreurs quand on fait l'APO, le R0 dans le complément d'information pour les nouveaux. On est offreur quand on démarre les gens. On est offreur quand on va signer le pacte moral. On est offreur quand on travaille sur l'étude de marché. On est offreur quand on vient faire les PO et les RBE. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de toute façon, dès le départ, si vous êtes offreur, vous devez vous intéresser à la personne. Et à partir du moment où vous allez vous intéresser à la personne, vous allez avoir cette attitude d'offreur. Si vous essayez d'être... Vous savez, parfois, on démarre ce projet, on se dit « Ah, mais toi, tu es une super commerciale, ou toi, tu sais bien vendre, ou toi, tu sais bien en parler. » Non, justement, si vous essayez de maîtriser la communication, c'est une chose qu'il faut maîtriser dans les outils, mais notre communication, c'est d'abord l'écoute. Et j'insiste vraiment sur ça. Et c'est comme ça que vous allez devenir offreur. La personne, elle est en face de vous. Voilà, qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Si vous deviez changer votre vie aujourd'hui, vous chercheriez quoi? On revient sur le patient argentan. Le temps vous manque, l'argent vous manque, la famille que vous avez aujourd'hui vous manque et vous n'avez pas assez de temps. Et là, vous devenez offreur. Parce que si vous essayez de vendre quelque chose dont la personne n'a pas besoin, vous devenez demandeur. Et il y a juste un pas à franchir qu'il ne faut pas franchir, justement. Alors, qu'on parle du métier, c'est ça. Ensuite, l'acceptation. Alors, l'acceptation d'une vérité qui ne sort pas de chez moi, mais ça sort d'un livre. 36% des gens, aujourd'hui, abandonnent l'idée quand ils voient notre projet d'affaires, ou même avant. 36% des gens, aujourd'hui, ont abandonné l'idée de changer de vie. Donc, voilà, on leur a enterré leur rêve, ils ne sont pas heureux, mais de toute façon, ils sont condamnés à être malheureux et de l'accepter, surtout. Ensuite, 10% des gens sont paresseux. Il faut le savoir. Donc, il y a des gens qui vont dire, « Ouais, moi, je veux changer de vie, j'ai envie de faire plein de choses. » Ah bon, parce qu'il faut bosser? Eh oui, c'est pas la française des jeux. On ne gratte pas et on ne gagne pas. Il faut bosser. Là aussi, c'est une évidence pour vous, mais ça ne l'est pas systématiquement avec les gens que vous allez rencontrer. 17% aujourd'hui analyseront votre projet en essayant de le disséquer, en vous disant « c'est pas un truc qui marche ». Acceptez-le. Acceptez le fait que des gens ne soient pas d'accord avec vous. Alors moi, j'avais une associée, c'était la reine du Next. Next. Elle faisait une PO, t'es pas d'accord, next, t'es pas d'accord, next, t'es pas d'accord. À un moment donné, tu n'arriveras pas. En fait, c'est que les gens, vous n'êtes pas arrivés dans leur vie au bon moment. Aujourd'hui, si vous avez signé un aile international, on n'est pas plus intelligent, ni vous, ni moi. Hein. C'est juste que ce projet, la personne, votre sponsor ou votre lignée, elle est tombée au bon moment dans votre vie. D'où l'explication de garder une liste de noms et de revenir dessus. Parce que des gens qui vous ont dit non aujourd'hui, peuvent vous dire oui plus tard. Moi, j'ai une personne qui est ici dans l'assistance, une amie d'enfance, on pourrait dire ça, 26 ans. Elle connaît mon projet depuis 8 ans. Elle n'a absolument pas validé le projet. Par contre, elle a consommé la gamme pendant 8 ans. Sa vie privée a changé. Elle a tapé à ma porte. Elle m'a dit, bon, c'est bon, maintenant, je suis prête. 8 ans après. Réfléchissez à ça, sincèrement, et n'essayez pas de ranger les gens en disant, lui, il a dit non, c'est fini. Re-attaquer. Ensuite, 3% auront déjà essayé du marketing de réseau, de la vente directe, des trucs voilà, qui ne leur conviennent pas. 4% des gens gagnent plus de 250 000 euros. Tant mieux pour eux. Ils n'auront pas besoin de votre projet, peut-être. Ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, 70% des gens ne cherchent pas. Il vous reste quoi? Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? 30% sur le terrain. Vous pensez que c'est peu? C'est énorme. Parce que de toute façon, 30% pour trouver des gens, mais par contre, il faut accepter que ça ne soit pas le moment, et il faut accepter qu'effectivement, les gens ne disent pas « Ah ouais, je démarre !» Moi, ça ne m'est jamais arrivé non plus en 8 ans. Alors, est-ce qu'on vous avait annoncé que notre métier, c'est de la prospection? Oui? Non? Parce qu'en fait, notre métier, ce n'est que de la prospection. C'est rencontrer des gens. Si vous ne prospectez pas, votre affaire est une affaire qui, de toute façon, va monter et régresser. On doit toujours rencontrer des nouvelles personnes, toujours enrichir notre liste de noms, toujours enrichir. Et pour ça, pour ne pas devenir demandeur, mais être offreur. La gamme, là, c'est pareil. Si vous voulez être offreur, moi, j'ai parfois des gens qui rentrent et disent « Moi, je suis directeur commercial, je vais tout déchirer. » Ah, je lui dis « Non, ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je vais te déformater et je vais t'apprendre mon métier. » Ah bon, pourquoi? Mais pourtant, je vends super bien. Je lui dis, ça tombe bien, parce que chez nous, on ne vend pas. On ne vend pas. Vous vendez des boîtes, vous? Vous vendez de la poudre? Ça ne marchera pas. Par contre, si vous proposez des conseils, si vous proposez vos services, là, oui, on arrivera à faire des jolis chiffres d'affaires. Et si vous formatez vos gens comme ça, là aussi, on arrivera à faire des beaux chiffres. Susciter l'envie d'acheter. Pareil, hein, moi je dis quand on n'est pas des vendeurs, pour moi un vendeur c'est un côté péjoratif et ça l'est dans beaucoup d'esprits de chacun d'entre nous. On ne vend pas des tapis, on est d'accord, on n'a pas besoin d'un tapis. Par contre, on est conseiller en santé, je vous le disais tout à l'heure, santé financière et santé des gens. Donc là encore une fois, on devient offreur. Et créer le besoin, on est des communicants. Alors, deuxième chose, les concessions. Les concessions, je vais juste vous expliquer quelles étaient les concessions qu'il a fallu que je prenne pour aller chercher ce tutorat. Concessions, si vous ne voulez pas faire de concessions, je suis désolée, je suis un petit peu cash parfois, si vous ne voulez pas faire de concessions, vous n'arriverez pas à avancer dans ce projet. Parce qu'on ne peut pas accepter à se dire « je continue à faire mon sport, je continue à bosser à 100% dans mon boulot, je continue à regarder les séries télévisées le soir, je continue à sortir mon chien, je continue à faire tout ce que j'ai à faire et je veux réussir chez NL International. » Ça ne marchera pas. Par contre, les concessions, c'est la prise de conscience que j'ai eue. Moi, j'ai eu mon fils qui était au lycée. Et comme je suis un petit peu italienne, je lui faisais son manger, très maman. Et je surveillais, qui révise, etc. Puis à un moment donné, j'ai dit, si je veux aller chercher mon tutorat, il va falloir que je signe un pacte moral avec lui. Et je lui ai dit, voilà Angelo, est-ce que tu es prêt à bosser tout seul? Parce qu'il voulait partir en Afrique du Sud. Je lui ai dit, moi je ne vais pas partir en Afrique du Sud toute seule. Si je pars en Afrique du Sud, c'est avec toi. Par contre, il va falloir que je fasse des concessions. Moi, ça va être difficile de lâcher. Mais toi, il va falloir que tu bosses aussi. Tu bosses tout seul, que tu fasses à manger. Le soir, il va falloir que je sois dehors. Mais les concessions, ce n'est pas que ça. Parce que là, je vous parle de mon fils. Vous avez chacun vos histoires. Réfléchissez un petit peu à tous les gens qui sont autour de vous et qui ont besoin que vous signiez un pacte moral avec eux, les concessions. Vous avez des enfants? Vous avez une belle-mère? Vous avez la belle famille? Alors, ça fait sourire, mais c'est important. Qui c'est qui va garder les enfants? S'ils n'ont pas 17 ans comme le mien, ben c'est peut-être la belle-mère, ou c'est peut-être la voisine, ou c'est peut-être votre meilleure amie. Mais là aussi, il faut leur en parler. Leur en parler comment? Ben en leur disant, voilà, belle-maman, vous savez qu'avec mon chéri, votre cher et tendre fils, on a envie de développer cette activité. D'accord. On a besoin de temps. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts, à partir de la semaine prochaine, à garder les enfants deux fois par semaine? Il faut qu'on le fasse. Si vous voulez un jour qu'on soit libre tous les deux et que nos enfants en profitent, il faut qu'on soit. Vous voyez ce que je veux vous expliquer? Je vous le fais en direct. Mais les gens qui vous côtoient, les gens qui vous aiment, les gens qui vous entourent aujourd'hui dans votre vie, vous devez signer votre pacte moral. Vous êtes marié? Vous avez une femme? Vous avez un mari? Mais c'est pareil. Aujourd'hui, peut-être qu'il a validé ce projet ou peut-être qu'il n'a pas encore validé le projet. En tous les cas, il est compliqué de démarrer cette activité et de continuer, de persévérer dans cette activité si le conjoint n'est pas d'accord. Par contre, on a le droit de lui laisser du temps. Mais on a le droit aussi d'être honnête. Chérie, je ne vais pas être là tous les soirs. Chérie, il va falloir qu'on fasse des concessions. Est-ce que tu es prêt à faire des concessions? Si la personne vous dit non, vous allez faire quoi? Passer votre temps à vous engueuler? Essayer de partir, de sortir le soir, d'accompagner des gens? Notre métier, on doit avoir l'esprit libre. Je ne dis pas qu'on doit être heureux parce qu'on a tous des difficultés dans la vie qui soient plus ou moins graves. Mais en tous les cas, on doit avoir l'esprit libre. Et si vous ne signez pas ces pactes moraux avec les gens qui vous entourent, vous vous trompez. Donc, enfant, belle famille, ami, mari, femme. On doit tous signer en bas du contrat, oui, je vais te suivre dans cette aventure. Donc, des concessions. Et je voulais aussi insister sur vos vies, à vous tous. Tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un que j'apprécie particulièrement et il me disait, moi j'ai souvent eu Joa qui m'a dit, de toute façon, si tu n'es pas prêt à lâcher quelques heures de tes activités professionnelles, tu n'arriveras pas à aller chercher ton tutorat. Moi, je ne travaille pas avec lui en direct, avec eux en direct, et je le voyais souffrir et je les voyais souffrir. Et les concessions qu'il va faire, qu'il est en train de faire, les décisions qu'il est en train de prendre, ce sont des concessions financières. Je vous parle de lui, mais j'ai d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, qui travaillent avec Joachim Hénault. Ce sont des gens qui gagnent très 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 bien leur vie à côté et qui veulent aller chercher un tutorat. Et comme ils ne veulent pas lâcher, ils n'y arrivent pas. Je voulais qu'on mette une image qui n'est pas très belle, mais elle est voulue. Parce qu'en fait, on est toujours en train d'intellectualiser ce projet. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir intellectualiser ce projet. Il faut passer à l'action et il faut se dire, quels sont les risques que je prends ? On vous demande de sauter d'un précipice ? Franchement. Est-ce que vous prenez un risque de votre vie ? En sortant, en téléphonant, en allant voir des gens, en faisant du face-to-face et en le regardant droit dans les yeux, est-ce que vous prenez un risque sur votre vie ? Non. Alors à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que j'attends pour passer à l'action ? L'ego ? Dehors. On a le droit d'avoir de l'ego parce qu'on se respecte, mais il y a ego et ego. Mais à un moment donné, il faut avoir une prise de conscience de tout ça et de se dire, qu'est-ce que j'attends pour y aller ? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas quel âge vous avez. La vie, ça passe très très vite. Aujourd'hui, on vous a fait un cadeau. Vous êtes aussi des cadeaux. Parce que l'opportunité, ce n'est pas que ce que l'on a entre les mains. Vous êtes, chacun d'entre vous, une opportunité pour les gens à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez la puissance de ce que l'on a ? Nous pouvons vraiment changer le cours de la vie de gens. C'est pas le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Je vais vous dire juste un petit mot sur lequel j'ai travaillé. Votre attitude, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Aujourd'hui, ça va vous demander des efforts. On est d'accord. De sortir, de prendre votre téléphone. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Au début, c'est un effort. Il faut que ça devienne une habitude. D'une habitude, il faut que ça devienne une seconde nature. Et d'une seconde nature, il faut que ça devienne un besoin. Bonne réussite à tous.
Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Rêver de changer de vie, forcément, c'est un thème qui est assez vaste, mais qui me parle particulièrement. Mais en même temps, c'est tellement vaste que quand on parle de changer de vie, on a tous une perception un petit peu différente du fait de vouloir changer de vie. Et ce qui est certain, c'est que de toute façon, on part souvent dans ce projet de zone, sortir de sa zone de confort, ce qu'on fait tous au quotidien. Mais ce qui est certain, c'est que moi, j'aime bien parler aussi d'entrer en zone de rêve, parce que quand on est en zone de rêve, on est bien, on est dans le bien-être et on est dans un projet autour du bien-être. Donc, c'est quelque chose d'important. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon rêve, c'était forcément d'être sportif, en tout cas gardien de but professionnel. Quand on dit ça à ses parents, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné dedans et qui m'ont toujours porté et poussé vers ça. Donc, ça a été une vraie force. Mais en même temps, à l'époque, j'étais forcément plus petit et c'était un handicap. Donc, on m'a dit que je réussirais pas. Mais je me rappelle un après-midi de révision du brevet blanc, où de manière instinctive, pendant mes révisions, j'ai pris une feuille, je ne sais pas pourquoi, et j'ai noté tous les sacrifices que j'étais en mesure de pouvoir faire justement pour réaliser ce rêve-là. Et c'est des choses qui m'ont vraiment marqué, et souvent on entend parler de cahier de rêve pour pouvoir justement se fixer des rêves et se fixer des objectifs dans ce projet. Alors j'ai réussi avec du travail. Ensuite, il y a eu une deuxième tranche de vie avec le fait de pouvoir être footballeur professionnel. Et ça, c'était une excellente expérience avec un rêve qui m'a toujours nourri. C'était le fait de pouvoir fouler une fois dans ma vie le stade et la pelouse du Camp Nou à Barcelone. Et quand on dit ça à ses amis, ben forcément, on dit mais non, mais c'est pas possible. C'est un petit Charentais qui allait jouer en Espagne et jouer au stade du Camp Nou, c'était complètement irréaliste et il me prenait un peu pour un fou. Mais en même temps, ça m'a nourri et ça m'a plutôt motivé. Et 10 ans après, après plus de 5 000 entraînements, 8 000 heures de travail, ben je me rappelle encore une fois cette sensation d'avoir justement d'être dans le tunnel de ce stade et de se dire voilà, toutes les critiques que tu as pu subir, tout ce que les bâtons qu'on t'a mis dans les roues t'ont permis justement de pouvoir te transcender et atteindre cet objectif-là. Et c'était une vraie fierté. Et puis ensuite, il y a eu une autre tranche de vie. C'était la tranche de vie quand j'étais plus rien. Ça, c'est la reconversion professionnelle. Et là, on a eu une période de latence de 4 ans où justement, ça a été assez compliqué parce que on a perdu des repères, on a perdu un style de vie, on a perdu une passion, on a perdu énormément de choses qui faisaient ma vie sur une quinzaine d'années. Et ça a été une période difficile, mais en même temps, ce qui permet de grandir aussi, d'apprendre énormément sur soi. Et à ce moment-là, je me suis posé tout simplement une question. La question, c'est de se dire quel métier va te permettre de pouvoir récupérer le style de vie que tu avais quand tu étais footballeur, d'avoir la possibilité de pouvoir avoir l'adrénaline de la compétition, le travail en équipe, le fait de pouvoir avoir une liberté et une indépendance financière et ce côté compétitif et repartir sur un nouveau métier. Et là, en fait, c'est une rencontre. Une rencontre en juin 2013 avec un certain monsieur Joachim Henault qui me contacte et qui me dit tout simplement écoutez, monsieur Ardouin, on met en place un projet avec énormément de sportifs, notamment sur la reconversion. J'aimerais qu'on se rencontre parce que ça peut peut-être changer quelque chose pour vous. Moi, je suis curieux, j'y vais. Et là, il me présente le B2U. J'ai pas tout compris, mais par contre, je vois que derrière, il y a une vraie opportunité et des vraies perspectives. Et dans ma tête, j'avais déjà réussi. J'avais à peine vu ce projet que j'avais déjà réussi. Et je rentre chez moi, je l'explique brièvement à ma femme, à Caro, et je lui dis, j'ai découvert et j'ai rencontré mon projet d'avenir. Et là, la force qu'elle a eue, c'est de me dire, ben, fonce. Si tu y crois, fonce. Par contre, si tu y vas, tu te mets à 100%, même à 200%, et on va y aller et on va réussir. Alors, ça, la force, et Caro, je te remercie énormément, c'est qu'à ce moment-là, elle m'a permis, dans ma tête, de déjà démarrer. Et d'être dans la réussite, alors que elle aurait pu me dire, attends, mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Non, elle m'a fait confiance, on a foncé, et là, ça a été déterminant pour moi. Et il y a une chose qui a été importante aussi, c'est le fait de pouvoir se dire que à un moment donné, il y a le fait de découvrir le projet. Je me lance un objectif, bien sûr, en démarrant avec le VDI, de monter une société en un an. Pourquoi? Parce que j'avais déterminé à partir du plan de com qu'il fallait aller réaliser un Star Diamant à 25 000 PV en un an pour aller chercher une liberté financière, en tout cas la première étape. Donc on a mis en place un plan d'action. Et encore une fois, à ce moment-là, j'avais 3 activités. J'étais éducateur sportif, j'avais une auto-entreprise, j'étais joueur, donc j'avais pas beaucoup de temps. Par contre, je me rappelle encore une fois cette image de se dire, un soir après un entraînement, il est 20h30, il fait froid, il pleut, on est en plein mois de novembre à Bordeaux. Et dans le vestiaire, en fait... je me dis, j'ai 2 possibilités. Soit je vais sur ma présentation qui a lieu dans 30 minutes plus tard, ou alors je rentre à la maison et je fais un bisou à mes enfants, je fais un bisou à ma femme, je me mets sous la couette et je regarde la Star Academy. Et clairement, à ce moment-là, quand il fait froid, je me dis quoi? Mais si t'as pas un rêve, si t'as pas une vraie projection et que tu dis ce projet va pas changer quelque chose dans ta vie, à 20h30, tu rentres chez toi et tu ne vas pas présenter ton projet ou tu ne vas pas présenter la gamme. Et je pense que c'est ce rêve-là justement qui m'a nourri, qui m'a permis de pouvoir justement être en mesure de se dépasser, de multiplier les actions malgré en fait un emploi du temps qui soit assez important. Et puis, pour conclure, il y a quelque chose moi qui me fait rêver dans ce projet, c'est le fait de pouvoir aussi avoir un rôle dans le fait d'aider des gens aussi à atteindre leurs rêves et à changer de vie. Et moi, je vous regarde, mes équipes, vous êtes 200 aujourd'hui, mais je sais qu'aujourd'hui, je connais vos rêves à tous. Et le soir, quand moi je prends ma voiture et que je vais vous aider, je sais pourquoi je le fais. Ça me permet de me transcender, ça permet de me motiver, ça me permet de travailler sur mon intégrité, mon exemplarité et de vous dire que demain, vous serez ici et que ce sera à vous de prendre le micro pour faire quoi? Pour raconter votre histoire.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer pourquoi, ayant un métier comme le métier de vétérinaire, qui est considéré comme un beau métier, un très beau métier, voire un très très beau métier, j'ai pu m'intéresser à cette activité. Et même plus que ça, puisque j'ai décidé d'en faire ma reconversion. C'est étonnant parce que Idriss Aberkane, hier, dans sa présentation, a parlé un moment d'une personne qui faisait des motos russes, un métier pas très intéressant, et tout de suite, il a basculé dans le métier de vétérinaire. Incroyable, hein, comment il a vu ce métier. Et j'ai, quand j'ai entendu ce mot, j'ai eu des vibrations très spéciales dans mon corps et dans mon esprit. Donc souvent, on parle de passion. Je suis pas sûr que finalement, nous ayons des métiers de passion, de vocation. Quand on est petit garçon, petite fille, moi j'aurais aimé faire plein de choses. J'avais un oncle qui était boulanger, j'allais l'accompagner dans sa boulangerie. J'avais envie de faire boulanger. Hein, j'avais envie. J'étais enfant de cœur dans un petit village. J'avais envie d'être curé. J'ai coupé les cheveux de mes petites sœurs. J'avais envie d'être coiffeur. J'ai envie de démonter des moteurs. J'ai envie d'être mécanicien. Donc en fait, on peut faire plein de choses dans la vie. On découvre le monde. On a plein de choses. Et donc en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'est même être un garçon de café là qui tient ses plats comme ça, ses assiettes. J'ai envie de faire plein de choses, d'être livreur, ainsi de suite. Tout m'intéresse en fait. C'est vrai que je suis assez curieux, mais je pense qu'on est tous pareils. Et donc, ce qui m'intéressait aussi, c'était j'étais touché, enfant, adolescent, qu'on fasse des différences entre les personnes en fonction de leur statut social, de leur métier et de leurs revenus. Tout le monde est égaux, nous sommes tous égaux. Il y a plein de métiers dans cette salle. Nous sommes tous importants. En fait, la vie est un réseau. Nous sommes en réseau, nous avons tous besoin les uns des autres à un moment donné. Mais les problèmes que nous avons dans cette société, viennent du fait que nous oublions cela. Et quand Joël Justice, il n'y avait pas de diaporama, il n'y avait pas de vidéo, il a pris une feuille blanche, il a fait des ronds, hein, qui nous représentent des personnes, et puis il a fait des petits traits entre ces ronds, j'ai dit c'est génial, j'ai vu que ça, j'ai pas vu de plan de commissionnement, quoi que ce soit, j'ai dit ça touche tout le monde. J'adore quand ça touche tout le monde. Tout le monde. Et en plus, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça touche tout le monde. Tout le monde. Nous sommes tous touchés par la malbouffe. Même les encore 130 millions de personnes qui n'ont pas à manger dans le monde. Ça touche vraiment tout le monde. Donc ça a réveillé en moi des choses fortes. C'est des prises de décision. Et peut-être que dans nos vies, nous n'avons même pas cette opportunité parfois de prendre ces prises de décision fortes qui vont nous révéler, qui touchaient quelque chose de profond en moi. Il y a certaines personnes qui ont fait des choses extraordinaires dans des périodes sombres de l'histoire. S'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas vu ce qu'elles étaient capables de faire. Et donc moi, c'était quelque chose de très personnel. Si je dis ça, c'est parce que quand on réveille nos rêves, quand il y a des choses profondément ancrées en nous, on prend des vraies décisions. Et avoir l'opportunité de prendre une vraie décision, ça c'est incroyable, c'est super. Mais ça bouscule un petit peu l'échiquier autour de nous. Les relations avec nos proches, les relations avec nos amis, avec notre famille, cette incompréhension, tout d'un coup, ils nous découvrent sous une autre manière qui est nous, vraiment. Et ça bouscule terriblement. Moi, ma famille avait beaucoup de reconnaissance par rapport à mon métier. Hein ? Mon fils est vétérinaire, mon frère est vétérinaire, papa est vétérinaire. Et donc là, il faut passer une période de turbulence, se positionner clairement. Et là, c'était non négociable pour moi. J'allais me positionner clairement face à tout. Et donc, en fait, j'avais blessé mes proches, les gens qui me sont le plus chers. J'avais pas voulu les blesser. Mais donc, c'était difficile. Beaucoup de propos, des paroles qui font mal, qui sont violentes. Beaucoup d'émotions qui peuvent nous emprisonner et fait qu'on va retourner en arrière. T'es en train de rendre malheureux ta mère. Ma fille, voilà, elle va plus pouvoir venir à la clinique. Elle faisait joujou à mettre le stéthoscope dans les oreilles, à voir les chatons qui étaient dans les cages à adopter, tout ça et tout. Tu vas rendre ta fille malheureuse. Et là, nous avons le choix en disant, voilà, est-ce que je suis ces émotions, je suis pris en otage de ces émotions, ou je continue la route que j'ai tracée, que je veux montrer aux autres de qui je suis. En fait, le seul preneur d'otage, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes le preneur d'otage. Donc si je vous raconte ça, c'est parce que vous pouvez transposer ça à tous les métiers. Hein, parce que tous les métiers sont aussi importants, ça peut être pareil pour le boulanger et ainsi de suite. Hein, donc passer cette période, donc c'est relativement douloureux, mais en fait, quand nous, avec le recul, en fait, c'est une période qui devrait être agréable pour nous. Ils nous aident, ces personnes-là, à nous positionner pour que nous soyons bien clairs, même parfois à nous équilibrer parce que nous sommes un petit peu excessifs, un petit peu tout fous. Moi, j'étais comme un chien tout fou vis-à-vis de ça. Et donc, voilà, positionnons-nous. Nous allons tous avoir nécessairement, obligatoirement, à vivre cela dans cette activité. Et cette activité, vétérinaire, c'est un beau métier, mais pour moi, cette activité est un très, très, très beau métier avec des valeurs. Comme dit Jean-Claude Martini, c'est un métier intelligent et vertueux. C'est un métier où on va être content du succès des autres, des gens qui sont inscrits après nous et puis qui tout d'un coup réussissent avant nous alors qu'on pense qu'ils sont bien moins bons que nous. C'est quand même bizarre. C'est pour nous entraîner, ça, à être heureux de ce succès des autres. Et ça, c'est vertueux d'être heureux du succès des autres. Mais en même temps, c'est intelligent. C'est intelligent parce que si jamais il y avait personne qui me montrait l'exemple, je me découragerais, j'arrêterais cette activité. C'est complètement intelligent. C'est comme ça qu'on peut avoir les plus grandes croissances dans une société, finalement. Une autre valeur qui est l'humilité. Déjà, pour avoir une certaine ouverture d'esprit, pour accepter un deuxième rendez-vous, il faut d'avoir, déjà, je pense, avoir une certaine dose d'humilité. Nous allons avoir une transmission complète du savoir. Ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas de hiérarchie. Quand on gagne en qualification, on n'est pas dégagé des activités subalternes. Hein, les tuteurs, ils continuent à faire des rendez-vous bien-être, des PO, ils font toujours la même chose que les autres. Plein de choses comme ça. Et l'humilité, eh bien, ça nous permet de grandir, de continuer à apprendre. Moi, depuis que je suis dans cette activité, je peux vous dire que les personnes, les grands leaders, je vais pas les nommer, mais tous les leaders, je les vois grandir, devenir de plus en plus humains. Ils sont chaque jour de plus en plus humains. Hein? Et souvent, nous entendons dans les séminaires, eh bien, quand la tête enfle, le groupe désenfle. Et ça veut dire peut-être que moi, je suis moins humain qu'eux. Aujourd'hui, oui. Je suis pas en train de me flageller, j'ai envie de progresser, j'ai envie de grandir. Et c'est ça que je vais transmettre à mes proches, c'est ça que je vais transmettre à mes enfants. C'est pas des appartements, c'est pas autre chose, c'est ces valeurs-là. Et j'ai de plus en plus de belles relations avec mes proches. Il y a deux citations qui me parlent beaucoup. C'est une citation d'Einstein qui dit « La folie, c'est continuer à faire la même chose en espérant obtenir un résultat différent. Si je continue à me nourrir comme je me nourris, que ça me pose des problèmes de santé, est-ce qu'en me continuant comme ça, je vais mieux me nourrir ? Si je continue à gérer mon temps comme ça, est-ce que je vais mieux dégager du temps dans les années à venir ? Pareil pour les finances. Est-ce que si je continue à critiquer les autres, à mettre tout le temps la faute sur les autres, que j'ai des relations difficiles avec les autres, est-ce que je vais améliorer mes relations avec les autres ? Nous avons besoin de contempler ça tranquillement et de le méditer. » Et puis, il y a une autre phrase qui me parle beaucoup, c'est « Les choses ne sont pas difficiles parce que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles ne sont pas difficiles. » Nous avons besoin de prendre des risques pour changer des choses dans notre vie. Et le risque, c'est pas de s'inscrire dans ce projet. Le risque, c'est pas de consommer les produits. Le risque, c'est pas qu'il y ait des personnes qui nous disent non quand on leur présente le projet. Le seul risque que nous allons prendre pour transformer notre vie, c'est que des personnes nous disent oui. Ça, c'est un gros risque, hein. Parce que nous, si nous disons oui, ben, il y a des personnes qui vont nous dire oui. C'est nécessaire. Prenons ce risque qui est un risque incroyable et qui va changer énormément de choses. Dans ce collectif, moi, je me sens être à ma place dans ce collectif. Je me sens être accepté. Je me sens être ne pas jugé. Je me sens être aimé. Je me sens être accompagné, soutenu. Et je me sens libre dans ce collectif. Et vous m'avez apporté énormément parce que j'ai mis... Toute cette semaine, j'étais habité par ce témoignage. Ça a permis d'éclaircir énormément de choses pour moi. Et j'espère que cela, ça vous a apporté aussi quelque chose parce que nous sommes tous identiques. Nous allons vivre toutes les mêmes histoires. Et je vous remercie encore une fois du fond du cœur.